Mais où est donc Ornicard?
Il se trouve que, au cours de ma thèse, pas au cours de mes études précédentes, mais au cours de ma thèse, j'ai eu la chance d'appartenir à une équipe qui travaillait et qui pensait l'histoire de l'architecture comme une forme d'histoire sociale, c'est-à-dire qu'elle abordait avec des outils d'historien, en se posant des questions, comment on construit, pourquoi, avec quel financement, pour qui, avec quelle maîtrise d'œuvre, donc des questions qui étaient assez matérielles.
Une émission proposée et présentée par Jean-Louis Riwal.
Et qui donc faisait que c'était une histoire de l'art qui pouvait être entendue par le biais du logement social, qui est peut-être plus ancrée que si j'avais fait quelque chose, je ne sais pas, j'aurais pu étudier un aspect esthétique de l'œuvre de Le Corbusier, bon, ça aurait été très différent. Là, c'était vraiment une histoire qui se voulait très ancrée dans les réalités sociales.
Aujourd'hui, le logement ouvrier, du rêve de devenir propriétaire.
À partir du moment où on a voulu lutter contre les taudis, avec l'idée en plus de constituer un patrimoine, on s'est dit, ben tiens, s'ils devenaient propriétaires d'une petite maison, on ferait d'une pierre deux coups. Ils auraient à la fois un logement salubre, et puis ils auraient un petit bien qu'ils transmettraient à leurs enfants, et d'une certaine façon, ils pourront sortir de leurs conditions ouvrières.
En 1913, un sociologue disait des ouvriers au sujet de leur logement qu'avec leur argent, ils préféraient le dépenser dans les vêtements, les distractions, soit à tout ce qui les met plus étroitement en contact avec les groupes de la rue ou de leur classe, et ce faisant, dédaignant l'investissement dans leur habitat et son confort. Cette vision a couru tout au long du XXe siècle, et la migration des ouvriers des centres-villes vers les banlieues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'a pas changé l'idée reçue. Les ouvriers n'avaient, et non pas, d'idéal de logement. Les faits traduisent cependant une autre réalité et montrent des intérieurs entretenus avec soin et leur souhait d'accès à la propriété, comme tous les Français d'ailleurs. Hélène Froire est historienne et ingénieure de recherche au CNRS. Elle revient au cours de cet entretien sur le rapport des classes populaires avec leur habitat.
La question du logement, lorsqu'elle émerge au XIXe siècle, elle fait partie de ce qu'on appelle la question sociale. C'est-à-dire qu'au moment où la révolution industrielle a lieu, où la population ouvrière grandit très rapidement, mais aussi est très misérable, les élites sont, ou disons, les gens qui s'intéressent à la vie politique sont très décontenancés en fait, et ils sont décontenancés par le fait qu'on puisse travailler et être pauvre. C'est-à-dire que pour eux, la distinction ancienne qui est le bon pauvre, celui qui ne peut pas travailler parce qu'il est vieux ou mutilé, bon bah on l'aide, et puis le mauvais pauvre, c'est celui qui rechigne à travailler, tout d'un coup ça ne marche plus du tout, et ils se retrouvent avec cette population qui est à la fois travailleuse et pauvre. Et le logement social va être une des formes de réponse, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réflexions qui ont lieu tout au long du 19e siècle, et il est vrai que ces réponses sont pour partie pensées à la place des ouvriers, c'est-à-dire que c'est une pensée très construite, mais en partie une pensée d'élite, qui vont essayer, eux, de trouver le modèle. Alors, par ailleurs, au sein des classes populaires, il y a aussi des tentatives de trouver des réponses à la question du logement. Et un des exemples très célèbres qu'un certain nombre de gens connaissent s'appelle le Familistère, qui se trouve à Guise, qui est une expérience collective par cet homme qui avait été ouvrier et qui était devenu, sauf erreur de ma part, donc est devenu dirigeant de cette entreprise de poils, Godin, avait tenté lui-même des expériences. Donc, on en a des expériences de ce type, mais dans l'ensemble, celles qu'on connaît sont plutôt des expériences faites non pas par les ouvriers, mais pour les ouvriers.
Est-ce que, de manière générale, on a des éléments qui nous permettent de dire que les ouvriers s'intéressaient à la manière dont ils étaient logés ?
Alors, ce qui est tout à fait certain, c'est qu'ils subissaient leur logement parce que le logement était de très mauvaise qualité et les gens étaient extrêmement mal logés. Même un travailleur qui gagnait sa vie comme il le pouvait n'arrivait pas à se loger dans des conditions qu'aujourd'hui on trouverait convenables. Je pense que ce qui était intéressant pour moi à voir dans cet article, c'était que j'avais étudié toute cette histoire du logement à travers l'État et à travers les institutions, c'est-à-dire une vision un peu par le haut, si on peut dire. C'est comment l'État s'est mis à construire pour les gens qui ne pouvaient pas construire. Et c'est vrai que c'est un des angles d'attaque les plus simples pour s'intéresser au logement social.
Et aussi le plus classique.
et le plus classique. Et finalement, en allant un peu plus loin, je me suis dit, mais finalement, en découvrant qu'il y avait des mécanismes de crédit assez fins par lesquels les ouvriers pouvaient financer leur propre construction, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils construisent et qu'est-ce qu'ils ont envie de construire? Et là, en regardant un peu de près ce qui avait été écrit, je me suis rendu compte que si quelques historiens s'y intéressaient, il y avait quand même pour les autres l'idée que dans le fond, un ouvrier, à cette époque-là, il ne s'intéresse pas à son logement. Donc il y avait une espèce d'a priori sur le fait qu'un ouvrier ne s'intéresse pas à ses conditions de vie. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Cette idée avait une longue histoire et elle venait, pour le dire très très rapidement, du fait que l'histoire sociale, donc que je pratique et que pratiquent beaucoup d'historiens qui travaillent sur le logement, est une histoire qui est née de l'histoire militante des années 70. À partir du moment où on s'est dit, bah voilà, il faut aussi s'intéresser aux exclus, à ceux dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas. Donc c'est une histoire très militante et qui, parce qu'elle était militante, dans le fond, associait l'ouvrier à ses combats et à ses luttes. Mais l'associait assez peu au fait qu'il emprunte pendant 25 ans à crédit pour s'acheter une maison. Ça paraissait un peu un mauvais ouvrier ou un ouvrier qui trahirait sa classe ou quelque chose, un petit bourgeois. Donc finalement, ça avait fait que ces questions-là étaient restées un peu de côté, voire un peu méprisées. Et je trouvais ça intéressant de revenir dessus et d'aller voir ce qu'il en était vraiment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les ouvriers se désintéressaient de ça ou est-ce qu'on n'avait pas voulu aller regarder de plus près ce qui se passait?
Mais visiblement, les ouvriers, effectivement, Hélène Froid, n'intégraient pas la dimension du logement dans leur lutte. Lorsque vous mettez en avant les différentes revendications de la fin du 19e et début du 20e siècle, notamment à travers la parole des syndicats, le logement n'apparaît pas.
Alors vous avez tout à fait raison. Le logement, les questions de logement font très peu l'objet de luttes organisées, à une exception près, qui est la question des loyers. C'est-à-dire qu'il y a des combats autour de la question des loyers. On sait qu'il y avait beaucoup de déménagements qu'on appelait à cloche de bois. On partait vite de son logement parce qu'on n'arrivait pas à payer le terme, qui était tous les 3 mois, ce qui était très difficile, d'autant plus difficile à régler que 3 mois, c'est très long pour un ouvrier qui est payé à la semaine. Donc il faut arriver à garder l'argent pour vendre. Donc les luttes prenaient cette forme-là, mais il y a eu très peu de combats organisés autour du logement. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne s'y intéressaient pas. Et les historiens qui ont regardé de plus près ce qui se passait ont trouvé des signes d'un intérêt pour le logement. J'en cite quelques-uns. On voit par exemple l'aménagement intérieur avec des petits rideaux, des cages d'oiseaux, du papier peint qui est collé, donc des attentions pour avoir un joli logement.
Vous dites même que dans certains bâtiments, l'extérieur est absolument rebutant, affreux, odieux. En revanche, dès lors qu'on pénètre dans l'appartement, on rentre dans un appartement tout à fait vivable, agréable.
Oui, les gens font un effort autant qu'ils le peuvent pour aménager l'intérieur quand ils le peuvent. Alain Faure, qui est un historien qui a travaillé sur ces questions, il s'est intéressé, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des questions très matérielles et j'aime beaucoup ses travaux parce qu'ils vont vraiment voir de très près et de façon très pratique comment ça se passe. Et il a montré l'intérêt des classes ouvrières pour le mobilier. Les gens parfois achetaient à crédit avant de se marier pour pouvoir ensuite s'installer avec leurs meubles. Donc ils achetaient ce qu'on appelait un mobilier. Donc par exemple toute une chambre avec les meubles en bois, la table, le lit. Et puis quand ils avaient fini de le payer, ils pouvaient s'installer. Et donc ils montrent par exemple qu'ils aimaient bien acheter des lits-cages, qui étaient des formes de lits qu'on pouvait fermer ou plier pendant la journée et qui permettaient de laisser de l'espace quand on ne dormait pas. Donc ils montrent qu'il y a un intérêt pour tout ça parce que les gens vivent dedans, donc il faut qu'ils essayent de trouver des solutions pour que l'espace...
C'est un lit qui pouvait aussi s'ouvrir le soir et se fermer le matin.
Oui, c'est un lit pliant si vous voulez. Et donc on voit commencer à se diffuser, donc ça montre bien que les gens essayent de trouver des solutions dans des très mauvaises conditions de logement pour arriver au mieux, à être logés un peu mieux. Et moi j'ai étudié un autre aspect de cette histoire qui est la façon dont, on le connaissait déjà un peu mais je l'ai abordé d'une autre façon, la façon dont les classes populaires vont aller s'installer en région parisienne et faire construire des petits pavillons. C'est une histoire qui commence disons autour de 1900 et qui prend de l'ampleur dans l'entre-deux-guerres.
Que j'avais pas grand chose dans ma petite vie, pas toujours rose, dans mon petit pavillon de banlieue, oublié des hommes et de Dieu. Entre ma petite femme et mon chien, j'avais que la télé et puis rien, à peine un petit carré de pelouse, 1m23 sur 1m12, où il trônait comme un pacha, mon petit simplet qui n'est plus là. Si je tenais l'enfant de gredin qui m'a volé mon nain de jardin, je lui ferais passer le goût du pain. Et passer le goût du pain.
Est-ce que les classes ouvrières, les classes populaires s'intéressent à l'architecture?
En fait, ils ne construisent pas, donc la question ne se pose pas vraiment. Donc les ouvriers en ville vont se loger dans des immeubles existants qui parfois ont été recoupés, réaménagés, parfois on a rajouté un petit corps de bâtiment vite fait dans la cour et on le loue, mais eux-mêmes ne maîtrisent pas vraiment ce qui va être construit.
Mais il y a aussi l'autre volet qui est l'accès à la propriété. Donc là, en l'occurrence, ils peuvent avoir une action sur le logement.
Alors, toute la question de l'accès à la propriété, évidemment, c'est ça qui m'intéressait. C'est comment, à un moment donné, les classes populaires vont très lentement accéder à la propriété. On sait aujourd'hui que une majorité de Français est propriétaire ou accédante à la propriété. Ce n'était absolument pas le cas au XIXe siècle. Et d'ailleurs, ça n'était pas une tradition. Vous devez connaître ça, mais les grandes familles bourgeoises du XIXe siècle à Paris louent leur logement souvent. Parfois même, elles sont propriétaires d'un immeuble et elles louent un autre appartement pour y habiter. Donc il n'y a pas cette tradition d'être propriétaire de son logement. Les gens sont propriétaires de terrains fonciers, par exemple à la campagne, ou d'immeubles qui vont eux-mêmes louer à quelqu'un, mais on peut très bien habiter en louant son logement, même quand on est quelqu'un d'assez fortuné. Donc il n'y a pas cette tradition qu'on a aujourd'hui qui nous paraît une évidence, qui n'a pas toujours existé.
Le rêve de la propriété n'existait pas à l'époque.
Oui, j'aurais tendance à penser que la question ne se posait pas comme ça, parce que les formes étaient différentes. Je vous donne un seul exemple, la copropriété n'existait pas, quasiment pas. Donc comment vous faites pour être propriétaire d'un appartement, c'est-à-dire d'un petit bout d'un immeuble, quand il n'y a aucun règlement qui dit comment vous allez vous y prendre, à qui appartient l'escalier, qu'est-ce que vous devez ou qu'est-ce que vous ne devez pas aux autres personnes de l'immeuble? C'est très compliqué juridiquement. Donc c'est un signe que vraiment la question ne se posait pas comme aujourd'hui. Il y avait un locataire principal qui sous-louait à tous les occupants de l'immeuble.
Pour rester sur la notion ou la question de l'accès à la propriété, comment ça s'est fait finalement au tournant du 19e, 20e siècle? Puisque certes, les ouvriers, même si on dit qu'ils n'avaient pas la possibilité, en tout cas le capital, pour être propriétaires, comment ont-ils pu accéder à la propriété de leur immeuble ou de leur petit pavillon?
Alors, ils avaient beaucoup de mal à accéder à la propriété de façon générale, et c'est bien tout un des enjeux de cette fin du XVIIIe siècle pour les réformateurs sociaux de leur donner accès à la propriété. Et là, il faut que je reparte un peu en arrière, plus vraiment du côté de la question du logement, mais d'une autre question qui se croise très fortement, de revenir à la question sociale en s'interrogeant sur les moyens qu'on a eu de protéger ces plus pauvres ou ces travailleurs pauvres. Donc, parmi toutes les solutions qui sont pensées au XIXe siècle, la solution du XIXe siècle, une période à laquelle pendant laquelle la protection sociale n'existe pas, c'est d'avoir un patrimoine. C'est tout bête, mais si vous possédez, le jour où vous êtes vieux, vous ne serez pas à la rue. Et si vous êtes malade, vous ne serez pas à la rue. Donc on pense la protection des plus fragiles à travers la constitution d'un patrimoine. Et le XIXe siècle, c'est le siècle où, en France, avec un peu de retard sur d'autres pays européens, on constitue par exemple les caisses d'épargne, avec l'idée que les ouvriers pourront déposer une toute petite somme quand ils pourront et qu'à la fin de leur vie, ils auront un pécule pour le conserver. Alors, ça ne marche pas du tout pour la bonne raison que la situation ouvrière est très fragile. Les gens, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance contre les accidents du travail jusqu'à la fin du 19e. Donc il suffit de la moindre petite chose pour qu'ils ne soient plus payés, ils ne travaillent plus. Zola le montre très bien comment les gens basculent très facilement dans la misère parce que le hasard de la vie veut qu'ils n'aient pas pu travailler ou en période de crise économique, ils n'ont plus d'emploi. Donc ce système qui consistait à leur dire mettez de côté jour après jour, évidemment ne fonctionnait pas. Mais l'idée était celle-là. Et donc, parmi cette idée, à partir du moment où on a voulu lutter contre les taudis, avec l'idée en plus de constituer un patrimoine, on s'est dit, ben tiens, s'ils devenaient propriétaires d'une petite maison, on ferait d'une pierre deux coups. Ils auraient à la fois un logement salubre et puis ils auraient un petit bien qu'ils transmettraient à leurs enfants et d'une certaine façon, ils pourront sortir de leurs conditions ouvrières. Donc c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de savoir comment faciliter l'accès à la propriété pour ces classes populaires.
Quelles étaient les intentions du politique à l'époque pour encourager les ouvriers à acheter?
Alors, d'abord, je préciserai que les premières tentatives pour aider les ouvriers à être propriétaires sont aussi le fait des patrons qui, eux, cherchaient à stabiliser leurs employés, donc avaient essayé d'encourager un peu l'accession à la propriété de leurs propres employés, mais dans des conditions, il faut avouer, souvent draconiennes et les gens devenaient rarement propriétaires. Les conditions étaient trop difficiles. Mais donc, il y avait ces premières expériences qui datent pour certaines des années 1830, 1840, 1850.
Donc très tôt?
Absolument, très tôt, avec très peu d'effets, mais la question se pose et on commence déjà à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une bonne architecture ouvrière. Qu'est-ce qu'il faudrait lui construire pour qu'il soit bien logé?
Et alors?
Et alors, il faut un petit pavillon avec une salle commune et une chambre. C'est à peu près ça le modèle de base minimal pour les ouvriers. Et voilà.
C'est très sommaire en tout cas.
C'est très sommaire, mais eu égard aux conditions de l'époque, c'est considéré comme étant déjà un premier pas vers un logement salubre. Et à la fin du XIXe siècle, toute cette question qui intrigue énormément les contemporains, c'est-à-dire ils sont vraiment obsédés par la question sociale, je pense qu'on n'a pas idée de à quel point cette question est vraiment la toile de fond des réflexions Je dirais, c'est une mauvaise comparaison et je m'en excuse, mais je dirais que c'est un peu comme aujourd'hui les questions d'environnement ou de réchauffement de la planète qui sont un peu, on en parle tout le temps, on pense à ça tout le temps. Bah, à l'époque, la question, c'était la question sociale. Donc sur ce fond-là, un certain nombre de personnes à la fin du 19e siècle, de réformateurs sociaux, de philanthropes, essayent de construire un dispositif dans lequel les classes populaires vont pouvoir accéder à la propriété. Et ils se rendent compte, et c'est un point assez intéressant, que ce qui est la limite et ce qui fait que ça ne marche pas, c'est la question du crédit. En fait, la question du crédit, c'est un ouvrier n'arrivera jamais à accumuler assez pour devenir propriétaire. Donc il faut lui donner, lui mettre à disposition des dispositifs et des outils de crédit qui n'existent pas de cette façon-là. Et c'est ça la grande révolution de la fin du 19e siècle, à partir du moment où on crée les premières lois en faveur du logement social, qui vont encourager le logement locatif. On va également essayer de mettre à leur disposition du crédit immobilier, pour leur permettre d'emprunter et de construire un petit bien. Et c'est justement ces emprunteurs que j'étudie dans cet article.
Parmi ces emprunteurs, donc, il y a la Société Centrale de Crédit Immobilier, qui est l'un des principal contributeur en tous les cas. Hein. Et quel est le lien entre les ouvriers et ces structures très institutionnelles en tout cas?
Alors, d'abord, je dis tout de suite, ces structures de crédit ne sont pas des structures privées, ne sont pas des banques. Ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Ce sont des structures, certes privées, mais dont le but est vraiment philanthropique. Aux yeux de leurs dirigeants en tout cas, leur but est philanthropique, c'est vraiment d'aider les ouvriers. Ce sont des structures qui ont été voulues par l'État et par le législateur, voulues par les réformateurs sociaux, qui sont très encadrés et dans lesquels le but n'est certainement pas d'arriver à faire le plus d'argent possible. Donc ils essayent d'aider ces quelques ouvriers qu'ils arrivent à sélectionner à arriver à la propriété.
Et d'ailleurs, qui sélectionne-t-il ?
Il se trouve que par chance, on a conservé les dossiers de prêts qui ont été attribués dans tout l'entre-deux-guerres, qui n'ont pas été jetés et qui ont été versés dans des archives publiques, donc on peut consulter. Donc on peut voir qui sont les personnes qui ont eu le droit à ces premiers prêts immobiliers. En revanche, et c'est très dommage, on ne connaît pas les dossiers qui ont été refusés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, je n'ai pas d'idée de qui demandait un prêt et qui a été refusé. Je ne vois que ceux qui ont été acceptés, c'est les seuls dont j'ai les dossiers.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de connaître les critères qui ont permis de sélectionner tel ou tel individu, tel ou tel ménage, ou tel ou tel couple.
Alors, on ne peut pas connaître les critères individuels. En revanche, en ayant tous ces dossiers et en les regardant, on peut voir quand même les critères communs à tous ces foyers. Donc on voit quand même que se dessine quelque chose. Ce qui nous manque, c'est de savoir, je vous donne un seul exemple, les foyers qui empruntent sont des familles. Il se trouve que ces politiques de logement sont destinées essentiellement à des familles et très très peu à des célibataires ou des couples sans enfants. Il y en a quelques-uns, mais très peu. On ne sait pas s'il y a des couples qui ont demandé à construire et qui ont été refusés, ou si aucun couple ne demandait, c'était plutôt les familles qui demandaient ça, on ne saura jamais. Mais on peut voir le profil de ces emprunteurs, et c'était assez intéressant, puisque c'était... En fait, à peu près ceux à qui avait pensé le législateur, c'est-à-dire des foyers de travailleurs, qui ne sont pas les travailleurs les plus pauvres, mais qui ne sont pas non plus très fortunés.
Les plus pauvres et les plus pauvres, eux, ont toujours du mal à accéder à un crédit.
Ah oui, elles sont. Alors, elles sont extrêmement pragmatiques, elles prêtent, mais il faut que ça marche.
Philanthropiques, mais pragmatiques.
Absolument, et en plus, elles sont nées de toutes ces réflexions de la fin du 19e siècle, où on pensait encore que l'initiative privée était celle qui pouvait répondre, parce qu'on voit toujours ça maintenant avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle, l'État, c'est très inexistant. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ministères, ils ont très peu de budget. L'idée que l'État puisse construire pour les gens, c'est pas possible, tout simplement.
Et justement, est-ce que ça a marché, Hélène Fouard ?
Alors, on a parfois du mal à s'en rendre compte, parce qu'on ne connaît pas toujours l'issue du prêt, mais le peu que j'ai pu en voir, c'est que ça a assez bien marché. C'est-à-dire que, d'une part, on voit beaucoup de prêts qui arrivent au bout, ou qui sont même payés avec quelques années d'avance et les gens sont devenus propriétaires. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit que quand il y a des difficultés de paiement ou des trimestres difficiles, la société n'exerce jamais son droit de récupérer le bien, parce que c'est un bien qui a été, l'argent a été prêté sur une hypothèque. Au contraire, elle essaye de trouver des solutions pour permettre à la personne de rattraper son retard et de finir par verser l'argent. Donc on voit une société qui essaye vraiment que ses emprunteurs arrivent au bout du processus. Et on a comme ça notamment un cas où la société ne reçoit plus de paiement depuis plusieurs années. Elle se déplace, elle s'aperçoit que le pavillon est à l'abandon, elle fait une enquête, elle retrouve la fille du propriétaire qui lui apprend que la mère est morte, que le père s'est remis en ménage avec une femme qui l'a flouée, qui est partie avec une partie des affaires. Et la société va aider cette fille, qui est un des membres de la fratrie, à quand même aller au bout du prêt. Elle lui dit, c'est dommage, remettez-le en état, louez-le à quelqu'un, etc. Et elle la soutient jusqu'à ce que finalement, dans les années 50, la famille devienne réellement propriétaire de ce logement.
Hélène Fouard est historienne et ingénieure de recherche au CNRS. On lui doit la publication récente « De la rue de l'oasis au chemin de la Caille, un rêve pavillonnaire au début du XXe siècle. Dans l'ouvrage collectif « Désir de toi » aux éditions Créafis.